Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 8 août. Avec vous, Journal Ducasse au sommaire. Le journal, les sports, on parlera du 76e anniversaire des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que le premier anniversaire depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction mondiale des armes atomiques. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce dimanche, 8 août, la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 262 nouveaux cas locaux de Covid-19 et un autre décès ce dimanche. Un chauffeur de taxi testé positif au Covid met la ville de Cairns en lockdown. Et mission accomplie au JO de Tokyo, l'équipe australienne de basketball, les Boomers, remporte une médaille historique pour la toute première fois. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 262 nouveaux cas locaux de Covid-19 ce dimanche. Une femme âgée de 80 ans qui résidait au Wyoming Residential Aged Care à Summerhill et qui n'était pas vaccinée est décédée du virus à l'hôpital Royal Prince Alfred. Le chef adjoint de la santé, Jeremy McNulty, a déclaré que les résidents de Georges River pourraient être libérés des zones préoccupantes si des taux de tests élevés peuvent être maintenus au cours des prochains jours. Mais il déclare que 12 banlieues de Penrith seront ajoutées aux 8 zones de préoccupation du gouvernement local de Sydney et seront soumises aux mêmes restrictions les plus sévères.
Now we've seen the front of the epidemic move into parts of Penrith adjacent to the areas in Western Sydney and Southwestern Sydney. So we're concerned and the additional restrictions will help contain that outbreak emerging there. The suburbs affected, which are adjacent to Cumberland and Liverpool LGAs, Cadens, Claremont Meadows, Colleton, Erskine Park, Kemps Creek, Kingswood, Mount Vernon, North St Mary's, Orchard Hills, Oxley Park, St Clair and St Mary's.
Alors que les résidents de Sydney entrent dans la 7e semaine de lockdown, de verrouillage, New South Wales Health a lancé une nouvelle campagne de vaccination appelée Super Sunday. Toute personne âgée de 18 ans et plus est invitée à s'inscrire dès aujourd'hui au centre de vaccination du parc olympique de Sydney pour l'un des 4000 vaccins AstraZeneca. New South Wales Health appelle les travailleurs des supermarchés et de l'approvisionnement alimentaire des 8 zones de gouvernement local les plus touchées par le virus à se manifester pour leur vaccin. Les rendez-vous pour AstraZeneca, pour les vaccins d'AstraZeneca, sont disponibles au Sydney Olympic Park depuis ce matin 10h jusqu'à 16h. Cela survient alors que la région d'Armidale, dans les Northern Tablelands, commence un verrouillage de 7 jours. Et les ouvriers du bâtiment pourront retourner sur les chantiers en Nouvelle-Galles du Sud à partir de mercredi prochain, 11 août. Une nouvelle enquête des syndicats de Nouvelle-Galles du Sud montre que près d'un travailleur sur deux déclare avoir été exposé à un risque de Covid au travail. L'enquête auprès de près de 3000 travailleurs de l'éducation, de la fabrication, des services professionnels et de la santé a été réalisée fin juillet et début du mois d'août. Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent s'attendre à ce que la situation sanitaire et économique de l'État se détériore davantage. Cela a incité les syndicats à demander un vaccin universel et un congé de dépistage pour les travailleurs, soulignant que les taux de vaccination plus faibles sont dans les banlieues du sud-ouest de Sydney. Le lockdown dans le sud-est du Queensland se terminera comme prévu à 16h cet après-midi, alors que l'État enregistre 9 autres cas de Covid-19. mais Cairns et Yarraba, au nord de l'État, entreront dans un verrouillage de 3 jours après qu'un chauffeur de taxi ait été testé positif au virus. La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que l'homme était dans la communauté depuis au moins 10 jours alors qu'il était contagieux.
Unfortunately, this discovery of a positive case in Cairns is something that we were not expecting. And we really need the residents of Cairns to come forward with any symptoms and get tested. Exactly what's been happening with the 11 LGAs. And down here, everyone has been doing a great job. Any symptoms, go and get tested. Now, this person has been infectious in the community for 10 days. That is of real concern.
Le Victoria a enregistré 11 nouveaux cas de COVID-19 ce dimanche. Tous les nouveaux cas sont liés à des infections connues, mais aucun n'était en quarantaine alors qu'il était infectieux. La liste des sites d'exposition de l'État est passée à plus de 140, dont le Mount Alexander College à Flemington et un chantier de North East Link Project à Yallambie, dans le nord-est de Melbourne. Les autorités avertissent également les habitants des régions de Glenroy et de Broadmeadows qu'il y a eu des fragments du virus récupérés lors des tests d'eau usée là-bas. Les épidémiologistes avertissent que le verrouillage actuel du Victoria va peut-être s'étendre au-delà des 7 jours prévus. Le gouvernement fédéral va fournir 150 000 doses du vaccin Pfizer pour le Victoria. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que l'hésitation à la vaccination en Australie a commencé à diminuer. Plus de 1,3 million de vaccins ont été effectués à travers le pays au cours de la semaine dernière, soit près du double de celui d'il y a quelques mois. Greg Hunt a confirmé qu'un million de doses du vaccin Moderna sont attendues en Australie en septembre sous réserve de l'approbation de la Therapeutic Goods Administration. Selon lui, l'accélération des taux de vaccination montre que le système aura la capacité de s'accélérer pour fournir 2 millions de doses par semaine, comme prévu en octobre prochain.
Australians are stepping forward to be vaccinated in record numbers. And we see that the hesitancy is down and our intention to vaccinate is up. Our latest reporting to the federal government on our monthly tracking is an intention to vaccinate of 77%, with approximately 13% who are considering. And we would say to every single one of those people, please take the decision to be vaccinated.
237 000 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire en France hier. À Paris, des milliers de personnes ont participé pour la première fois à des manifestations. Marine de la Moissonnière était dans un des cortèges de la capitale pour Radio France Internationale.
Dans le cortège, beaucoup de manifestants sont là pour la première fois. La décision du Conseil constitutionnel qui a validé l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines professions a été un électrochoc pour certains, à l'image de Stéphanie, assistante commerciale de 52 ans.
Je suis écœurée, j'ai même pas les mots. J'en revenais pas et je me dis c'est pas possible que ça en reste là. Je peux pas rester chez moi dans le canapé, c'est impossible. Je veux participer. C'est les vacances, il pleut. J'ai plein de choses à faire chez moi, mais je ne pouvais pas ne pas venir, il faut bouger.
Des manifestants remontés donc, même au cœur de l'été, et qui pensent qu'ils seront rejoints par d'autres dès que les conséquences concrètes de la loi se feront sentir. Beaucoup prédisent une rentrée explosive, comme Rania, claire de notaire de 50 ans.
Au retour des vacances, je pense qu'il y aura un plus gros impact parce que les gens vont avoir conscience de ce qui se passe. Parce que là, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait conscience, ils préfèrent penser aux vacances. C'est normal, ils veulent décompresser parce que c'est trop tendu en ce moment. Il y a une telle pression, il y a un trop plein d'informations contradictoires en plus. Donc c'est plutôt à la rentrée, ça va chauffer.
D'ici là, pas question de se démobiliser. Certains appellent déjà à de nouvelles manifestations samedi prochain.
Et puis maintenant un mot sur la situation politique en Haïti, dans le sillage de l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a un mois. 44 personnes sont en prison, mais l'enquête piétine. Précision, Dan Mignard pour RFI.
Dans la tourmente, après l'assassinat de son président il y a tout juste un mois, l'île peine à trouver une relative stabilité politique. Depuis le drame, le pays est dirigé par Ariel Henry, un premier ministre intérimaire jugé illégitime par une majeure partie de la population. Gershan Bastia, musicien et militant du mouvement anticorruption Petro-Caribe Challenge, nourrit l'espoir que l'île sorte de la crise sans ingérences étrangères, notamment celle des États-Unis. Écoutez-le.
Il contrôle tout, il essaie de nous imposer des solutions toutes faites qui n'a pas marché, qui ne marche pas et qui ne marchera pas. Parce qu'il faut partir sur des bases solides pour réaliser des élections. Parce que si on va réaliser des élections rapides, ça ne va pas marcher. Ça va donner d'autres crises, 30, 40 ans de crise. Parce qu'en général, ce sont des élections truquées, des élections contestées qui donnent la base aux crises politiques, aux instabilités politiques en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'encourage encore une fois l'initiative de la société civile pour une solution haïtienne à la crise. Ça veut dire qu'il y a des gens, des personnes conséquentes, des haïtiennes et haïtiens solides qui se disent que nous pouvons nous mettre ensemble pour qu'on part sur de nouvelles bases, pour qu'on crée une situation de stabilité dans le pays, pour que le pays avance.
En Afghanistan, maintenant avec les talibans qui poursuivent leur offensive. Hier, ils se sont emparés de la ville de Shebergan, dans le nord-ouest du pays. C'est la deuxième capitale provinciale à tomber aux mains des insurgés. Vendredi, la capitale Zaranch est tombée. Analyse de Gilles Doron-Soro, expert de l'Afghanistan et professeur de sciences politiques à Paris 1.
La conquête de ces deux villes, c'est pour la première fois des capitales provinciales qui tombent aux mains des talibans. Donc c'est symboliquement et militairement un événement important. Deuxièmement, c'est le signe que tout l'ouest et le sud de l'Afghanistan sont en train de tomber aux mains des talibans, ce qui présage d'autres chutes de capitales provinciales dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, on a des combats à l'intérieur de Lashkargah, une grande ville du sud. 90% de la ville est aux mains des talibans. Il ne reste plus qu'une base militaire et quelques bâtiments officiels qui sont aux mains du gouvernement. Donc cette ville pourrait tomber assez vite. On a aussi les talibans dans une position très forte dans le Badriz, dans l'ouest. Donc on a une dizaine de villes où les talibans pourraient remporter la victoire dans les semaines qui viennent.
Le nord de l'État de la Californie, ravagé par ce qu'on appelle la Dixie Fire, le troisième plus gros incendie de l'histoire de l'État, avec 170 000 hectares disparus depuis mi-juillet. Précision de Sofia Katsankova pour RFI.
C'est le troisième plus gros incendie de l'histoire récente de la Californie et sa progression pourrait se poursuivre selon des scientifiques. Les rafales de vent attendues dans les prochains jours pourraient attiser le feu selon les autorités. Plus de 5000 pompiers sont mobilisés pour combattre les flammes, mais ces coups de vent violents, en plus d'une végétation très sèche et un terrain compliqué, rendent leurs efforts très difficiles. Ce mercredi, l'incendie a détruit la ville historique de Greenville. Sur les vidéos des médias locaux, la ville est totalement méconnaissable. Les maisons et les voitures ont été englouties par les flammes, laissant cette ville de 800 habitants réduite en cendres. Les flammes du Dixie Fire sont si importantes qu'elles génèrent une épaisse fumée noire, visible depuis l'espace. Même si les incendies sont courants en Californie, ils deviennent de plus en plus ravageurs chaque année. Pour cause, la sécheresse prolongée liée au changement climatique a rendu l'ouest des États-Unis vulnérable à des feux de forêt de telle ampleur. 7 des plus grands incendies de l'histoire de la Californie, dont le Dixie Fire, se sont produits au cours des 3 dernières années seulement.
Et la Grèce a lancé un appel à l'aide via le système d'aide d'urgence de l'Union européenne. Des pompiers et des avions sont arrivés de France, d'Ukraine, de Croatie, de Suède, d'Israël, de Roumanie et de Suisse. Les incendies de forêt font rage en Grèce et ont tué un pompier volontaire dans un incendie menaçant le parc national le plus important de la capitale, Athènes. Les autorités disent qu'il peut y avoir un peu d'espoir alors que le pays subit sa vague de chaleur la plus intense en 30 ans. Le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a déclaré que la situation s'était légèrement améliorée.
The situation today is a little better than yesterday. We must continue with great intensity the effort to limit all fires and not to have any risk of re-ignition. The priority of the last few days has been first and foremost the protection of human life, to the extent that it is possible to protect properties, especially for the fire not to enter settlements, and of course the protection of critical infrastructure.
L'année 2021 va être mauvaise pour la production française de vin. Selon le ministère de l'Agriculture, cette production devrait chuter entre 24 et 30% cette année par rapport à 2020, une baisse due aux intempéries. Patricia Lecomte, RFI.
Il y a d'abord eu les épisodes sévères de gel printanier durant la première quinzaine d'avril, avec plusieurs nuits successives de gel, alors que la vigne avait déjà bourgeonné en raison d'un hiver doux. Malgré les efforts déployés par les vignerons, qui durant plusieurs nuits ont allumé des feux pour tenter de réchauffer la température, les vignes ont été endommagées. Un autre facteur est venu aggraver la situation, un début d'été pluvieux qui a favorisé le développement des maladies de la vigne, comme le mildiou et l'oïdium. La quasi-totalité du vignoble français a donc été touchée, par conséquent, la production française de vin devrait être historiquement basse cette année. Selon Agrest, le service des statistiques du ministère de l'Agriculture, elle devrait se situer entre 32,5 millions et 35,5 millions d'hectolitres, contre presque 50 millions l'année dernière. 2021 restera une année noire pour les viticulteurs, la production sera inférieure à celle des années 1991 et 2017, toutes deux frappées également par un gel printanier important.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 20 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Hobart, 13. Canberra, 14. Sydney, 17. Brisbane, 23. Cairns, 26. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximal de 22 degrés. Un rappel des grands titres de ce 8 août. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 262 nouveaux cas locaux de Covid-19 et un autre décès ce dimanche. Un chauffeur de taxi testé positif au Covid met la ville de Cairns en lockdown. Et mission accomplie au JO de Tokyo pour les Boomers qui remportent une médaille historique. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Ceci est un message du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Galles du Sud est actuellement en état d'alerte maximale concernant le coronavirus. Si vous vivez dans le Grand Sydney ou dans les régions de la Central Coast, des Blue Mountains, de Shell Harbour et de Wollongong, vous devez rester chez vous, à moins que vous n'ayez une raison impérieuse de sortir. Il est impératif que vous ne receviez pas de visiteurs chez vous, même si ce sont des membres de votre famille.
Et il faut rester chez vous si vous habitez aussi les régions d'Armidale, de Newcastle, de Cessnock, de Dungog, de Lake Macquarie, de Maitland, de Muswell Brook, de Port Stephens et de Singleton.
Les commerces non essentiels doivent rester fermés au public et n'opérer qu'en ligne ou via un système de click and collect s'ils le peuvent. Des restrictions supplémentaires s'appliquent à ceux qui vivent dans les zones de Fairfield, Canterbury, Bankstown, Liverpool, Cumberland, Blacktown, Parramatta, Campbelltown et George River. Si vous habitez dans l'un de ces quartiers, vous ne pouvez pas le quitter pour aller travailler, à moins d'y être expressément autorisé. Pour toutes les dernières informations, rendez-vous sur nsw.au.
Journal des sports de ce dimanche, avec tout d'abord les JO de Tokyo, 2 médailles d'or pour la France hier, samedi. Le volley-ball, la finale homme, victoire française contre la Russie, et en handball, victoire française contre le Danemark. Sofiane Namazian, Radio France Internationale.
2 médailles d'or en l'espace d'une heure et c'est la France qui vibre en cette fin de Jeux Olympiques. La résurrection tout d'abord des handballeurs tricolores, sevrés de titres depuis 2017, enchaînant les déceptions, voire même les échecs. C'est une équipe de France outsider qui s'est présentée à Tokyo, mais les doutes ont été rapidement levés, une phase de groupe survolée jusqu'à cette finale face au rival danois. Et au terme d'un match haletant, ce sont les Bleus qui ont eu le dernier mot. Victoire au bout du suspense, 25 à 23, c'est le 3e titre olympique obtenu depuis les Jeux de Pékin en 2008. Les volleyeurs français ont eux aussi écrit l'histoire ce samedi en s'imposant au terme d'un combat face aux Russes. Aérien pendant 2-7 puis poussé dans leur retranchement jusque dans la manche décisive, les Bleus ont su trouver les ressources nécessaires pour s'imposer de peu dans la dernière manche. Premier essai en finale olympique donc et coup de maître pour les volleyeurs français. Un feu d'artifice pour le sport collectif tricolore en attendant le bouquet final car contre la Russie, les handballeuses françaises disputent une deuxième finale olympique consécutive.
Et puis la finale du foot masculin avec le Brésil qui a battu l'Espagne 2-1 après prolongation pour les Brésiliens. Et les dames, les Canadiennes, championnes olympiques en battant les Suédoises au tir au but, 3-2 après prolongation. Handball féminin avec la finale, la France-Russie à 16h ce dimanche. Basket avec la finale homme, France contre les États-Unis. Les Bleus s'inclinent en finale 87 à 82, mais repartiront donc avec la médaille d'argent. Martin Guèze, RFI.
La France avait pourtant battu les États-Unis pour débuter le tournoi olympique, mais c'est cette fois-ci incliné en finale 87-82, 5 petits points d'écart que les Français n'ont jamais réussi à combler derrière au score tout le match. Nicolas Batum et ses coéquipiers ont couru derrière Kevin Durant, chaud bouillant, auteur de 29 points, mais les Français qui ont recollé à 2 petits points en fin de match s'arrêtent là. La maladresse tricolore au lancer franc et de trop nombreuses pertes de balles ont eu raison des Bleus. Maladroit à l'image du pivot Rudy Gobert, excellent en défense mais peu à son aise dans la raquette américaine. Et forcément frustré par cette médaille d'argent.
Quand tu sais à quel point on était capable de le faire, c'est frustrant de pas l'avoir fait. Ça se joue à rien, des petits détails, des petites choses voilà, dont on se rappellera souvent. Voilà, lancer franc, des balles perdues. Et quand on regarde le score et qu'on voit qu'il y a 5 points, c'est vrai qu'on se dit que voilà, qu'on était là, quoi. On était là. Donc je suis quand même fier de la mentalité qu'on a eue. On s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Voilà, il n'y a rien qui nous a été donné. Et malgré ça, on n'a pas abandonné. Et c'est notre mentalité, c'est la mentalité qu'on aura toujours et j'espère qu'on a pu rendre fiers les gens qui nous ont gardés et qu'on a pu montrer à tout le monde que dans la vie, dans le sport, faut, voilà, rien n'est impossible et il faut avoir peur de personne.
Voilà, il n'a peur de personne, mais tout de même battu par les États-Unis, Rudy Gobert avec Eric Mamrut. 4e titre de suite pour les Américains aux Jeux, 3e médaille française en argent après 1948 et après 2000.
Et le bronze est revenu aux Australiens qui ont battu la Slovénie. Et puis, chez les dames, les Françaises ont pris le bronze contre la Serbie, 91 à 76. On écoute ma réaction de la capitaine des Bleus, Ndene Miem.
Elle est vraiment sucrée, hein. C'est, oui. Elle est très très bonne, cette... Non, mais c'est juste énorme, c'est juste énorme. Voilà, ça n'a pas été simple, un échec hier. Et moins de 24 heures après, il faut se relever, il faut repartir, il faut aller chercher une médaille contre un adversaire qu'on connaît, qui nous a battu il n'y a pas si longtemps que ça, la dernière compétition. Donc oui, il faut juste y aller tout simplement et voilà, quand on ressort avec une médaille, c'est juste délicieux.
Revenons maintenant sur quelques événements marquants des derniers jours avec Steven Dacosta, le premier Français champion olympique de karaté. Mais le karaté ne sera pas aux Jeux de Paris en 2024, remplacé par le breakdance. Le marathon homme est encore un Kenyan en or, comme nous l'explique Christophe Jousset sur place à Tokyo pour RFI.
Oui, 5 ans après Rio, effectivement, Eliud Kipchoge conserve son titre à l'issue d'une course qui l'a mené comme il l'entendait. Peu après le 15e kilomètre, on le voit en tête du peloton, échanger de larges sourires et même un check à 19 km/h avec Daniel Do Nascimento. Mais une dizaine de kilomètres plus loin, le Brésilien ne riait plus du tout. Il a été pris d'un malaise en pleine course. Il s'est arrêté subitement. Il a titubé. Il s'est affalé. Il repartira, mais finira par abandonner. Eliud Kipchoge, lui, se prépare à appliquer la suite de son plan. C'est au kilomètre 29 qu'il décide de se détacher. Personne ne peut le suivre, pas même ses compatriotes. Foulée toujours impeccable et jusqu'au bout, le détenteur du record du monde va chercher la victoire en 2h08min38s. 1 min 20 d'avance sur le néerlandais Nagaye, 1:22 sur le belge Bachir Abdi. À l'issue d'une course qui a fait beaucoup de dégâts, les 3 Éthiopiens ont abandonné, notamment les Français se sont bien comportés. 12e place pour Nicolas Navarro à 4 minutes 12. Hamdouni est 17e à 5:55. C'est un événement aujourd'hui aussi parce que Eliud Kipchoge, le maître du marathon, est le 3e coureur de l'histoire à conserver son titre de champion olympique.
Le marathon féminin hier avec une doublée kényane en or et en argent. À nouveau, Christophe Jousset pour RFI.
Elle passe la ligne avec une poche de glace plaquée sur la poitrine par le haut de son maillot. Il est seulement 8h30 dans le parc Odori de Sapporo. Pérez Jepchirchir vient de vaincre 87 adversaires, 29 degrés et un taux d'humidité très élevé. Les organisateurs ont eu beau avancer le départ d'une heure pour un peu plus de fraîcheur. Ce marathon-là s'est couru dans des conditions très éprouvantes. Le chrono l'indique. En 2h27, la Kenyane est à 10 minutes de son record personnel. C'est un détail, car pour d'autres, la chaleur a été fatale. La championne du monde, Chepengetich, kényane également, a abandonné dès le 33e kilomètre. À 4 kilomètres de l'arrivée, Sol Peter, une kényane naturalisée israélienne, s'est arrêtée net alors qu'un podium était encore jouable. Il fallait être très forte pour gagner. Pérez Jepchirchir l'a été. Deux fois championne du monde de semi-marathon, elle participait à ses premiers JO. Elle devance de 16 secondes sa compatriote Brigitte Kosgei, la détentrice du record du monde. De 26 secondes, l'étonnante américaine Molly Seidel. Une performance qui permet au Kenya de garder le titre olympique du marathon féminin. À Rio, en 2016, c'est Jemima Sumgong qui l'avait emporté. L'année suivante, elle avait été contrôlée positive et purge actuellement une peine de 8 ans de suspension.
Et puis le Burkina Faso a remporté sa première médaille des JO, une bronze grâce à Hugues Fabrice Zango au triple saut. Il est fier, mais quelque peu déçu, comme nous l'explique Marie-Amélie Motte pour RFI.
C'est classé 3e de la finale, derrière le Portugais Pedro Pichardo et le Chinois Yaming Zhu. Médaille de bronze, première médaille olympique de l'histoire du Burkina Faso. Mais à 28 ans, le détenteur du record du monde en salle pouvait légitimement viser l'or. On écoute Hugues Fabrice Zango, déçu et fier à la fois.
Mon sentiment, il est un peu mitigé parce que c'est vrai que je marque l'histoire en ramenant la première médaille du Burkina, comme promis. Mais effectivement, c'était pas le métal espéré. Je voulais l'or au vu de tout ce que j'ai fait cette saison, en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était vraiment compliqué, un peu comme les qualifs, hein. J'ai essayé de me recentrer après les qualifs et j'ai tout donné sur ce concours. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour pouvoir amener un meilleur métal. Je suis content d'une part parce que j'ai réussi à me sortir d'un bourbier, en fait. Vous savez qu'après 2 essais, j'étais encore dehors, en fait. Et donc, c'est au 3e essai que j'ai réussi à me surpasser et puis à pouvoir à me placer. Sur ce côté, je suis assez satisfait parce que j'ai vraiment tout donné sur ce concours. J'ai tout donné, tout ce que je pouvais donner aujourd'hui, je l'ai donné.
Et pour en terminer avec l'athlétisme, la finale du 110 mètres haies, le Jamaïcain Ansel Parchment s'est imposé devant l'Américain Grant Holloway et devant un autre Jamaïcain, Ronald Levy.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est prononcée sur la tenue des JO à Paris dans 3 ans, en 2024. Elle est sur European Broadcasting Union.
Paris sera au rendez-vous en 2024 pour accueillir des jeux festifs, spectaculaires, qui feront rayonner notre pays, son art de vivre, sa créativité, son histoire, ses monuments, mais aussi surtout ses citoyennes et ses citoyens. Ces jeux vont nous faire du bien. Le combat écologique est aussi au cœur de la transformation de notre ville et au cœur de la proposition que nous avons faite. Et d'ailleurs, de Marseille à Tahiti, en passant par la Seine et la Seine-Saint-Denis, au cœur de ces Jeux, il y aura ces transformations écologiques, mais aussi les transformations de nos modes de vie. Et c'est d'ailleurs cette perspective qui nous a guidés aussi en ce qui concerne les Jeux et leur héritage.
Voilà donc pour le journal des sports de ce dimanche. Et 34 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Les 6 et 9 août 2021 marquent les 76e anniversaire des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que le premier anniversaire depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction mondiale des armes atomiques. Jean-Marie Collin, expert en désarmement nucléaire et porte-parole de ICANN France, est avec notre collègue Bertrand.
Vous êtes avec SBS French.
Le 6 août 1945, une bombe atomique, la première bombe atomique de l'histoire, a explosé sur Hiroshima. Donc, 76e anniversaire aujourd'hui, et aussi le premier anniversaire du traité international sur l'abolition des armes nucléaires. Et pour en discuter, j'ai en ligne Monsieur Jean-Marie Collin, spécialiste en désarmement nucléaire. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Et voilà, donc nous sommes à un moment historique où nous commémorons, nous observons un anniversaire assez triste dans l'histoire du monde avec les explosions, la double explosion d'armes atomiques sur le Japon en 1945, le 6 août, et deux jours plus tard, donc après Hiroshima, Nagasaki. Quelle est la situation aujourd'hui après tant d'années et après un traité international qui est plutôt mal respecté?
Déjà, c'est essentiel que chaque année, on commémore ces événements dramatiques, des explosions, des bombardements nucléaires des villes de Hiroshima et de Nagasaki. La mémoire est un élément essentiel pour perpétuer ce souvenir, honorer les personnes, les populations civiles qui sont décédées. Donc, c'est extrêmement important et le Japon le fait, bien sûr, mais à travers le monde, il y a des dizaines, voire des centaines de commémorations ou d'actions pour se souvenir de ce drame. Et cette année, vous l'avez souligné, est une année particulière. C'est la première année où on commémore ces événements et où en même temps, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est en vigueur, puisque ce traité est entré en vigueur depuis le 22 janvier 2021. C'est un traité qui interdit globalement les armes nucléaires, de la menace d'emploi à l'utilisation, bien sûr, mais aussi sur les questions des banques, sur le placement d'armes nucléaires sur d'autres territoires. Donc, c'est vraiment un instrument global et qui vient compléter d'autres instruments, et notamment le traité de non-prolifération nucléaire. Et on peut observer qu'il y a une dynamique qui est plutôt positive, malgré les complexités de ce traité, mais on doit regarder les aspects positifs de ce traité et la volonté d'une majorité des États du monde qui ont signé ou déjà adhéré à ce traité.
Ce traité, je disais, il est plutôt mal respecté, parce que les principaux pays détenteurs de l'arme nucléaire, on se souvient, pendant la guerre froide, il y avait cette théorie ou ce concept de MAD, Mutual Assured Destruction, donc la destruction mutuelle assurée. Et aujourd'hui, la doctrine a changé. Il y a 3, 4, 5 dernières années, il y a plutôt une certaine, je dirais, les armes atomiques sont considérées avec une certaine légèreté, je dirais.
Je dirais pas qu'elles sont considérées avec une certaine légèreté. Je dirais qu'au contraire, l'arrivée, malheureusement, par exemple, du président Trump a fait reprendre conscience à certaines population, à certains acteurs politiques internationaux, du danger des armes nucléaires, même si ce danger a toujours été le même pendant la guerre froide et aujourd'hui. L'existence actuellement d'un peu plus de 13 000 armes nucléaires fait peser un danger majeur, un danger équivalent au changement climatique, qui sont vraiment, avec ce changement climatique, les deux mots MAUX de notre 21e siècle. Évidemment, les puissances qui détiennent des armes nucléaires n'ont pas encore signé ou adhéré à ce traité. Mais ce qu'il faut observer, c'est qu'il existe une pression qui est intense sur ces États. Par exemple, pour parler de la France, un État que je connais bien, y travaillant, vous avez 52 villes françaises, dont la capitale, qui ont signé un appel pour soutenir la création de ce traité. Vous avez 31 parlementaires qui soutiennent aussi ce traité. Donc, il n'y a pas une attitude... Il y a une attitude de pression en interne quand même de la part des élus auprès du gouvernement français et puis international, comme je le disais, il y a aujourd'hui 55 États qui ont ratifié ce traité, dont des anciennes puissances nucléaires, et il faut le souligner, l'Afrique du Sud, le Kazakhstan par exemple, des États qui sont toujours été très engagés contre les armes nucléaires, la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica, le Mexique, des États qui ont été affectés par les essais nucléaires et qui vont bientôt ratifier, l'Algérie par exemple, qui a fait des avancées importantes. Donc on est dans une dynamique positive, on est devant évidemment un sujet complexe, mais l'année prochaine, en janvier 2022, se tiendra la première conférence des États parties, donc des États qui sont membres de ce traité, et on sait que ça va encore créer une dynamique et une pression plus forte, puisque par exemple des États qui sont membres de l'OTAN, donc une alliance militaire qui soutient la politique de dissuasion nucléaire, vont participer à cette conférence comme observateurs, mais ce qui montre bien une prise de conscience et une obligation aussi de leur part de respecter, que ce soit le droit international humanitaire, leurs différents engagements à travers l'ONU. Bref, aller à l'encontre de ce traité, c'est véritablement aller à l'encontre de la bonne marche de l'histoire.
Le président Trump a été un des gros catalyseurs de ce mouvement de relance nucléaire, mais avant lui, il y avait aussi le président Bush avec la NPA, la Nuclear Posture Review, qui a revu les armes stratégiques nucléaires, et même Obama qui a modifié la posture des États-Unis en renouvelant, en fait, en mettant en avant une politique de renouvellement de l'arsenal nucléaire. Et à côté, on a la Russie, je ne sais pas très bien ce qui se passe de ce côté-là, mais on a tendance à croire, parmi les observateurs, une certaine reprise d'une course à l'armement nucléaire, en quelque sorte, parce qu'on voit aussi de plus en plus un discours des armes, du recours aux armes nucléaires tactiques, des mini-nukes et des bunker busters, ces armements nucléaires qui peuvent être utilisés sur des théâtres de combat conventionnels. Donc l'épée de Damoclès passe quand même toujours sur notre tête.
Oui, bien sûr, le danger n'a jamais changé, que ça soit sous l'ère du président Bush, du président Obama ou du président Trump, et aujourd'hui du président Biden, si on se limite aux États-Unis ou Poutine ou Boris Johnson, par exemple. Tous ces États conservent, quels que soient leurs différents présidents qu'ils ont eus sur ces 20 ou 30 dernières années, des arsenaux nucléaires majeurs. Tous, malheureusement, sont engagés dans une véritable course aux armements où les milliards, on est dans une centaine de milliards de dollars qui ont été dépensés en 2020 et autant et un peu plus qui seront dépensés cette année encore. Donc, c'est là où on a un véritable problème, effectivement, c'est que ces États et leurs dirigeants politiques actuellement ne comprennent pas et ne veulent pas entendre l'appel du reste du monde et la nécessité d'arrêter cette course aux armements et de consacrer véritablement les fonds à une véritable sécurité humaine. Le monde entier est confronté à une pandémie mondiale et on s'aperçoit que dans le même temps, ces États investissent pour aussi finalement mettre en place des plans qui potentiellement peuvent détruire la planète. Donc c'est un véritable non-sens. Le Tian vient répondre à ces différentes problématiques. C'est aussi un appel pour le droit aux générations futures, puisque c'est mentionné à différentes reprises dans ce traité, à bénéficier d'un monde pacifique, sans armes nucléaires, ou d'une capacité à pouvoir vivre dans le même monde que dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et encore une fois, même si la situation est complexe, est tendue, il faut comprendre qu'une majorité des États du monde sont en faveur de ce traité et agissent pour ce traité. Et je pense que en ce jour de commémoration d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qu'il faut pousser pour créer une pression encore plus forte. Et chacun d'entre nous, à tout niveau, un Français, un Américain, un Australien, peut agir en interpellant son maire, en interpellant son parlementaire. Quand on est étudiant, on peut aussi demander à faire une conférence ou à parler un peu plus de ce sujet. Donc, voilà, il y a des dizaine de façons extrêmement simples à agir, et la première étant, je pense, la plus importante, à s'éduquer et à s'informer sur ce sujet. C'est ce que je conseillerais à toute personne aujourd'hui pour pouvoir agir sur le désarmement nucléaire.
Et voilà, juste avant cette pause, c'était Anissa Altmaier en chanson qui nous interprétait la crise. Et maintenant, pour continuer le programme, on va parler du recensement de 2021 qui aura lieu ce mardi 10 août. Et je repasse l'antenne à notre collègue Bertrand.
J'ai le plaisir d'accueillir sur les antennes de la radio SBS Maëlle Ferredi de la Australian Bureau of Statistics. Bienvenue sur les antennes de la radio SBS, Maëlle.
Merci, bonjour Bertrand.
Et nous nous entretenons aujourd'hui en marge du recensement 2021. Le recensement en Australie, ça se passe tous les 5 ans, la dernière fois, donc c'était il y a 5 ans. Avant d'aller dans le vif du sujet, quel est l'intérêt de participer dans un recensement?
Le recensement nous permet de compter toutes les personnes qui vivent en Australie et les données connectées du recensement permettent de mieux comprendre les différentes communautés en Australie et nous aident à organiser des petits ou des grands projets qui nous concernent.
Par rapport au dernier recensement, il y a 5 ans, y a-t-il des nouveautés qui ont été introduites dans la procédure ou comment les choses vont se passer, ou y a-t-il de nouvelles questions qui ont été ajoutées? Y a d'autres paramètres que le recensement cherche à étudier? Quelles sont les nouveautés?
Oui, tout à fait. Donc, pour la première fois, le recensement peut être complété sur plusieurs jours. Vous pouvez commencer dès que vous recevez vos instructions par la poste. Il y a aussi eu quelques changements, dont 2 questions qui ont été rajoutées. Une sur les problèmes de santé chronique ou à long terme, et une autre question sur le service de défense des forces australiennes. Il y a aussi une question qui a été retirée sur l'accès Internet à domicile suite à l'augmentation d'utilisation d'Internet en dehors du domicile grâce aux smartphones et autres.
Comment est-ce que les gens peuvent s'y prendre? Parce que quelquefois, on a des agents de la ABS qui se présentent à la maison pour aider à remplir les formulaires. Bon, avec la pandémie, évidemment, tout cela ne sera pas toujours possible. Il y a d'autres modifications qui pourraient avoir été introduites, notamment ce que vous venez de dire, le remplissage des formulaires en ligne. Quelles sont les procédures?
La plupart des gens rempliront leur recensement en ligne. Vous pouvez commencer à remplir votre recensement dès que vous recevez vos instructions, si vous savez déjà où vous allez être le soir du recensement, le mardi 10 août. Nous avons commencé à envoyer les instructions pour compléter votre recensement à 10 millions de foyers, donc pensez à regarder dans votre boîte aux lettres. Les instructions donc envoyées par la poste contiennent votre numéro de recensement unique et votre mot de passe provisoire. Ensuite, allez sur le site www.census.abs.gov.au quand vous avez reçu vos instructions pour commencer à remplir votre recensement. Le formulaire prend environ 30 minutes, mais si vous préférez remplir un formulaire papier, il suffit juste d'appeler le service automatique disponible 24 heures sur 24 au 1800 130 250. Vous aurez besoin de votre numéro de recensement de 16 chiffres qui se trouve sur votre lettre de recensement.
Certaines personnes, je pense notamment aux personnes qui viennent des zones de conflit où il y a des conflits politiques et des choses comme ça, ont des réticences à prendre part à des exercices comme un recensement parce qu'elles ont peur d'être ciblées par les attaques du gouvernement, des discriminations, des choses comme ça. Comment faire pour, en fait, pallier à ces genres de réticences?
Vos données sont protégées par la loi et sont confidentielles. L'ABS est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. L'ABS ne partage pas vos données personnelles, cela inclut à tout autre service public. Il est important de se rappeler que les données que nous collectons nous permettent de créer des statistiques utilisées par les gouvernements et les entreprises privées pour prendre des décisions adaptées pour la collectivité.
En cette période de cyberattaque, les gens ont aussi peur du vol des données. On a vu ça surtout pendant la pandémie, que toutes les activités se déroulent en ligne. Il y a vraiment une explosion d'attaques en ligne, de vol d'identité, des choses comme ça. Donc, il y a des précautions qui ont été prises pour éviter cela.
Oui, tout à fait. D'abord, il est important de savoir que vous ne pouvez pas être identifié par l'information fournie à propos de vous et de votre famille. Nous avons aussi créé un formulaire en ligne qui satisfait les normes de sécurité les plus élevées et des mécanismes de contrôle internes et externes ont été mis en place. On a aussi entrepris une évaluation portant sur les risques et la sécurité avec le Centre australien de la cyberdéfense.
Une autre question qui se présente pour des personnes qui, parce qu'on s'adresse aux communautés multiculturelles qui ne parlent pas nécessairement l'anglais, y a-t-il des soutiens pour des personnes qui veulent avoir, par exemple, un service de traduction ou d'interprétariat pour les aider à remplir ces formulaires?
Oui, donc sur notre site www.census.abs.gov.au, vous pouvez trouver certaines vidéos traduites en français ou dans d'autres langues. Mais nous avons aussi un service de traduction et d'interprétation, TIS National, que vous pouvez appeler au 131 450 pour plus d'aide dans d'autres langues.
Et enfin, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour nos auditeurs, une information qui aurait échappé à... quelque chose que j'aurais oublié de poser dans mes questions?
Juste un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est de compléter votre recensement. Toutes les réponses comptent. Elles nous aident vraiment à créer des projets autant publics que privés. Par exemple, les bibliothèques dans votre quartier utilisent ces données pour enrichir leur volume de livres dans les langues étrangères. Ou Woolworths utilise aussi ces données pour stocker des produits alimentaires de provenance étrangère. Donc, toute réponse compte.
Et enfin, est-ce qu'il y a un site ou une adresse où les gens, ou un lieu où les gens peuvent se rendre pour s'informer davantage?
Donc, sur notre site, census.abs.gov.au, nous avons aussi une page Facebook, si vous cherchez juste census sur Facebook. Mais si vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez aussi appeler notre centre de contact au 1800 512 441 pour pas aller quelqu'un en anglais.
Maëlle, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous éclairer sur cet exercice civique très important.
Oui, merci beaucoup Bertrand.
Et en fin d'émission, un rappel des grands titres de ce dimanche 8 août. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 262 nouveaux cas locaux de Covid-19 et un autre décès ce dimanche. Un chauffeur de taxi testé positif au Covid-19 met la ville de Cairns au Queensland en lockdown pour 3 jours. Et puis une mission accomplie au JO de Tokyo avec l'équipe masculine australienne de foot, de basketball plutôt, les Boomers qui ont remporté une médaille historique pour la toute première fois.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.